Robert, j'appelle de Bukinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Joseph Kabila, a sur le plan économique déploré la fragilité de l'économie congolaise marquée d'une part par l'importation des biens de première nécessité consommés par les Congolais que le pays ne produit pas. Pour faire face à cette situation, Joseph Kabila propose entre autres la révision du régime fiscal pour le rendre propice à l'investissement productif et au civisme fiscal, l'appui direct aux petites et moyennes industries et aux petites et moyennes entreprises, spécialement celles chargées de l'agro-industrie, ainsi que la lutte contre la fraude douanière, la fraude fiscale ainsi que la contrebande. Le chef de l'État a également recommandé l'adoption rapide d'une nouvelle loi sur la fiscalité et celle sur le partenariat public-privé. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-63-80 et 081-890-49-69 pour intervenir en direct. Mais le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Cette émission est mise en onde par Dieudonné Nyangasa, Nico Kalamba y est à la réalisation et Pierrot Elameji vous la présente sous la supervision de Julien Nyamouini. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Ces quelques éléments de faiblesse de l'économie congolaise ont été relevés par le chef de l'État lors de son discours devant le Parlement réuni en congrès. C'était la semaine passée. Alors, des mesures urgentes devaient être prises, et surtout en ce qui concerne la fiscalité pour la rendre plus propice à l'investissement productif et au civisme fiscal. Nous en parlons avec vous et nous recevons dans ce studio le professeur Mathias Boaboa-Kayembe, professeur d'université en RDC. À l'université de Kinshasa, à l'université protestante au Congo, mais ancien directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Professeur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Pierrot.
Et les chefs de l'État déplorent cette fragilité des fondamentaux, comme il a dit, de notre économie. Comment pourriez-vous expliciter un peu cela en quelques mots, la fragilité des fondamentaux de notre économie?
Oui, je pense que c'est à bon escient que le chef de l'État a relevé cette fragilité. Elle est constituée, si on prend, parce que l'économie se réalise à travers trois étapes principales. Il y a l'étape de production, il y a l'étape de circulation et l'étape de consommation. Alors, si on prend l'étape de la production, on ne produit presque rien. Et effectivement, comme le chef de l'État a dit, et on importe des biens qui viennent de l'étranger. Il est sûr que ces biens qui viennent de l'étranger, chargés de fiscalité extérieure, qui arrivent ici dans notre pays, coûtent très cher à la population. Maintenant, le défi de la circulation de biens, c'est un défi également difficile à réaliser, étant donné que le pays est vaste, il n'y a pas de réseau routier, etc. Donc c'est difficile de pouvoir atteindre le marché congolais, dont on dit qu'il est important, mais ce marché, pour l'atteindre, il faut passer par des routes ou bien des voies fluviales et autres, mais qui sont en mauvais état. Et le défi de la consommation également, la consommation qui incite aussi à l'investissement, parce que dans un pays où on consomme, les investisseurs vont venir parce qu'ils sont sûrs de trouver des personnes qui vont acheter des biens qui vont produire. Mais on doit quand même dire que nous sommes un pays avec un PIB par habitant parmi les plus faibles d'Afrique, donc la consommation n'est pas très très importante. Donc tout cela peut C'est tout cela qui représente cette fragilité de l'économie congolaise.
Et à quel niveau, effectivement, on a commencé à sentir cette fragilité? On peut dire que c'est tout un processus. On est arrivé aujourd'hui à ce qu'on déplore. Mais à un certain moment, l'économie congolaise pouvait se porter mieux. Quels sont les éléments qui ont concouru, effectivement, à ce qu'on se retrouve là où nous sommes aujourd'hui?
Oui, bon, je ne sais pas si à un certain moment on pouvait dire que l'économie congolaise se porte bien, parce que dernièrement, on a utilisé les indicateurs comme le PIB du pays, le taux de croissance du pays. Le pays a enregistré des taux de croissance de 9%, 8% pour dire que l'économie se portait bien. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'on a connu la crise de l'exportation des minerais, donc la baisse des cours des minerais sur le marché international, tout a sombré. À partir de là, tout a sombré. Donc ce n'était pas une force économique qui existait en tant que telle. C'était une situation conjoncturelle liée essentiellement à la production du cuivre. Lorsqu'on a enregistré des problèmes dans ce secteur-là, on a vu qu'il y avait des problèmes, effectivement, pour notre économie. Donc, la force économique viendrait du fait que on a plusieurs secteurs, 3 ou 4 ou 5 secteurs, comme le président l'a dit. Il a parlé du secteur de l'agro-industrie et d'autres secteurs. On a 3 ou 4 ou 5 secteurs importants qui marchent très, très bien, et de telle sorte que si on a des difficultés pour tel secteur, on peut continuer à évoluer avec d'autres secteurs.
Et en évoquant effectivement les secteurs, le chef de l'État a évoqué la lourdeur de notre système fiscal, estimant qu'il est nécessaire de pouvoir le reviser rapidement pour stimuler les investissements, le civisme fiscal. Alors, rappelons quand même que vous avez écrit un livre dernièrement sur les droits fiscaux congolais. Je crois bien, c'est votre matière. Quelles sont les faiblesses aujourd'hui en grande ligne de notre régime fiscal? Parce que plusieurs fois, les gens l'ont toujours déploré. Le régime fiscal congolais n'est pas propice pour l'investissement, pour la production. Quelles sont ces faiblesses en grande ligne?
Bon, en grande ligne, c'est que ce régime fiscal se traduit par une lourdeur d'imposition. Une lourdeur d'imposition pour les opérateurs qui sont installés dans notre pays. Mais il ne faut pas penser qu'il s'agit du régime fiscal, donc la fiscalité telle qu'appliquée par la DGI seulement, ou bien la DGDA seulement. Il faut prendre la fiscalité, les perceptions obligatoires dans leur globalité. Et donc il y a les perceptions qui sont faites par ces régies financières, DGI, DGDA et des GERAD, mais il y a aussi des perceptions qui sont faites par les régies provinciales. Donc là aussi, et puis il y a les taxes. Donc en dehors de ces perceptions, il y a les taxes qui sont faites et par les différents ministères du gouvernement central et par les différents ministères du gouvernement provincial. Quand vous prenez tout cela sur une même matière imposable, ça fait un taux de perception extrêmement important qui dissuade les investissements. Effectivement, je viens de sortir ce livre sur la fiscalité congolaise. Mais en fait, c'est la 3e édition de ce livre, donc je l'ai adapté. Donc tout est adapté, tout est mis à jour par rapport aux lois sur la fiscalité qui sont intervenues entre-temps, de telle sorte que les gens puissent avoir un outil qui peut leur permettre de bien fonctionner.
Mais est-ce que la question pour résoudre, remonter cette économie, stimuler l'investissement, est-elle liée tout simplement à la fiscalité?
Bon, elle est liée à la fiscalité, tout d'abord, parce que, en fait, la fiscalité peut avoir un rôle incitatif, comme elle peut avoir un rôle dissuasif. Si elle est trop lourde, elle est dissuasive. Donc on doit faire quelque chose pour faire une analyse d'ensemble de cette fiscalité et proposer au gouvernement des mesures à prendre pour assainir la situation dans ce secteur. Mais il n'y a pas que la fiscalité qui peut inciter à l'investissement. Il y a d'autres paramètres. J'ai parlé de la situation politique du pays. si la situation politique n'est pas bonne, évidemment l'économie ne va pas marcher. Il y a la question des infrastructures économiques, il y a l'existence de l'électricité, de l'eau, il y a un tas d'autres choses
qu'il faut considérer et qui doivent être aussi améliorées au même moment avec la fiscalité. On va revenir à vous, professeur. Il y a Timothée qui nous appelle Darou, Michel Agoma et Maître Likonza ici à Kinshasa. Timothée, merci d'être avec nous. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre au 081 890 49 69, 081 890 63 80, pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Timothée, vous êtes à Arou. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Timothée.
Oui. En fait, nous avons suivi le discours du président de la République avec attention. Et nous avons parti sur le programme de l'année aujourd'hui. Notre préoccupation est qu'à un moment donné, l'économie de la RDC a été fragilisée par les programmes du gouvernement. C'est-à-dire, la RDC a régulé l'aspect macroéconomique tout en négligeant les microéconomies. Alors qu'on devait commencer par soigner d'abord les micros. Ça veut dire les micros. On devait commencer par penser d'abord la situation du panier de ménagères, c'est-à-dire le social des Congolais. Lorsque on est bien, on accède facilement à la nourriture, facilement on peut arriver à investir. Et ce qui fait que la politique actuelle de la RDC ne favorise pas l'investissement. Il y a beaucoup de taxes. Quelqu'un qui veut entreprendre, il y a beaucoup de services qui viennent pour lui. Comment voulons-nous que RDC puisse avancer? Nous dépendons de l'extérieur. Nous importons les biens de l'extérieur. Et lorsqu'on vient, la déclaration trop chère, voilà. Autant de problèmes qui ruinent l'économie de la RDC. Quand on veut régler l'aspect macroéconomique, moi je peux dire, est-ce que quelqu'un qui a une pareille peut acheter la cravate? Je ne pense pas. On a d'abord commencé à acheter la chemise, les vestes, et puis on a acheté la cravate. Maintenant, nous avons opté pour acheter directement la cravate, alors que d'abord la base, on n'a pas posé une base solide pour l'économie de la RDC.
Voilà.
Celui qui avait fait ce discours macroéconomique, lorsque lui est parti, et directement aujourd'hui nous voyons les taux d'échange, donc la monnaie de la RDC a été directement fragilisée. Les taux aujourd'hui, on est à 1400-1500. Avec ce taux, c'est quelle économie de la RDC, de quelle macroéconomie?
Merci beaucoup, Timothée. Vous estimez, Timothée, que la fragilité de l'économie, vous dites que ça vient du programme du gouvernement. Le gouvernement a privilégié les indicateurs macroéconomiques, ces discours autour des cadres macroéconomiques. Je crois que c'est un terme qui a tellement fait des vagues dans notre pays. Et vous estimez que c'est le fait que le gouvernement se soit concentré sur ces questions des macroéconomiques et la microéconomie a été oubliée. Et c'est ce qui est à la base de toutes ces difficultés aujourd'hui. On pourra voir avec le professeur pour vous permettre de comprendre, permet aux autres de comprendre cette question des macroéconomies et microéconomies. Merci beaucoup, Timothée, mais vous estimez que c'est la responsabilité du gouvernement. Michel, vous êtes à Goma, au nord qui vous bonjour, merci d'être avec nous, Michel.
Oui, bonjour, Perron. Je salue aussi le professeur.
Merci.
Oui. Par rapport à mon intervention, j'ai eu personnellement à suivre le discours du chef de l'État par rapport à cette matière-là. Heureusement que vous venez d'organiser un sujet par rapport à ça. Je voulais juste intervenir sur les aspects qui peuvent aussi jusque-là que les pays se retrouvent en difficulté face à l'économie. Par rapport quand le président de la République parle de la production locale, moi je pense que la production locale doit d'abord tenir compte des donc de certains aspects qui sont très utiles pour... Allô?
Oui, allez-y.
Et oui. Si je peux parler de certains aspects, ça veut dire que il y a d'abord l'aspect sécuritaire. Nous avons un problème. La production locale, aujourd'hui, dépend de cet aspect. Parce que nous avons quelque part, si vous estimez même le prix de maïs qui a coûté, donc qui ne fait toujours pas d'être parlé au niveau de la province, même au niveau du pays. Là où je suis, par exemple, donc il n'y a pas deux mois que le sac de maïs coûtait 35 000 francs. Aujourd'hui, c'est 50, 55 000 francs congolais. Donc, nous nous retrouvons, quand je parle avec ces gens, ils me disent clairement que le maïs est produit à l'intérieur. Mais comment y accéder? C'est un problème très sérieux. Et là, c'est un aspect à considérer. Un autre aspect, c'est aussi un autre aspect qui est structurel ou organisationnel. Un gouvernement qui n'a même pas fait une année, deux ans. Donc, après trois mois, quatre mois, donc on remane le gouvernement. Chacun part souvent, donc chacun part avec sa politique de gestion du pays. C'est ce qui complique beaucoup plus la stabilité sur l'aspect économique du pays. Nous souffrons de ça parce que, pour le moment, le président de la République peut dire, c'est normal et c'est bien pour lui, parce qu'étant garant, il donne toujours des stratégies. Mais sur l'aspect de l'applicabilité, c'est là où il y a des problèmes. Il y a aussi un autre aspect, donc le problème de la tracasserie aussi, au niveau des services de l'État. Mais comment quelqu'un peut commencer et qu'il y a au moins 4, 5 bureaux de l'État qui s'ingèrent directement avec des taxes? C'est comme pas possible. Nous les vivons dans les pays. Alors, ça entraîne une certaine réticence auprès des investisseurs. Mais quelqu'un s'est dit, bon, je peux me lancer dans des histoires un peu clandestines, parce que jusque-là, on peut appeler un agent de l'État, on cause avec lui à l'extérieur, et ça finit, c'est normal. Est-ce que cet argent, si vous le racontez quelque part, est-ce que cet argent entre dans les fonctions publiques, donc dans la fonction publique? Je trouve que c'est non. Donc, il prend cet argent, il garde en poche, alors que ça n'avantage rien à l'État congolais. Donc, l'aspect sécuritaire est tellement capital pour la production.
Mais merci. Et là, c'est important. Si vous avez soulevé, oui.
Si vous allez aussi de Kivula, j'ai retrouvé à un village où le gens fabrique la boisson alcoolique avec les riz. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand je parle avec eux, ils me parlent que non, écoutez, entrez dans la maison. Vous retrouvez toute une maison remplie de riz. Ils n'ont pas comment donc évacuer ça. Ils manquent comment, parce qu'il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route de communication.
Donc, c'est un problème très sérieux. Bon, le professeur l'a évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Michel. Vous avez relevé trois éléments pour vous. L'aspect sécuritaire, c'est très important, il faut les dire. Mais vous estimez aussi qu'il y a un problème au niveau structurel et avec l'instabilité politique. Le professeur le disait tout à l'heure, les changements, les remaniements, les changements de gouvernement, chacun avec sa vision. Et des fois, il devient très difficile de pouvoir respecter ces principes de continuité de l'État. À chaque fois quand il y a changement, c'est toute une nouvelle politique aussi qui est instaurée, et la question des tracasseries, la multiplicité des services. Et notre ami Timothée venait aussi d'évoquer cette question. Merci beaucoup, Michel. Maître Likonza, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, maître.
Ah bien, merci beaucoup. J'ai suivi, comme tout le monde, le discours du chef de l'État. Je me suis demandé de quoi s'agissait-il dans ses discours sur son aspect économique. Une fois, je suivais un point de presse à l'époque de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. On lui avait posé la question, est-ce qu'on mange la macroéconomie? Il avait répondu, oui, on la mange. Et aujourd'hui, on nous parle de la souffrance de l'économie congolaise. Vous savez, dans un État, pour qu'un État se développe, et d'abord, on doit produire. Et la macroéconomie, c'est l'ensemble des grands agrégats économiques. Il y a la production, la distribution, la consommation, la commercialisation. Mais pour distribuer ou commercialiser, il faut produire. Et lorsqu'on ne produit pas localement et qu'on arrive à distribuer, à commercialiser, il faut dire que l'État être affecté ou être affecté par une maladie, un défaut dans l'économie. Et c'est ça le cas de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et je suis resté dans ma soif de ne pas comprendre. On ne va pas le dire parce qu'il y a des risques, tout ça, mais je l'ai dit quand même. Hein, de comprendre ce que notre chef de l'État avait voulu dire, hein, concrètement. Puisque j'ai demandé, s'agissait-il d'une rétrospective, hein, d'un bilan ou d'une information donnée au peuple congolais? Moi, je n'ai pas compris.
Alors, oui. Maître Likonza, au-delà de tout, si nous avons relevé, les éléments clés, quelle la nature et la forme que vous pouvez donner à cela, ça dépend de vous. Mais le chef de l'État a relevé qu'il y a des questions, il y a cette situation fragile de l'économie, mais il y a des pistes et des solutions. C'est le cas, par exemple, de la fiscalité, c'est le cas de la lutte contre la fraude douanière, le cas de l'investissement dans le secteur de l'agro-industrie. Ça, ce sont des pistes et des solutions. Nous nous penchons sur cela. Mais la forme à laquelle vous pouvez donner les discours bilan, rétrospective, et ça dépend de vous. Mais on regarde les éléments clés qui sont importants dans ces débats. Merci beaucoup, maître Likonza. On reste à Kinshasa avec vous, maître Gaston. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai demandé au professeur tout à l'heure s'il y avait seulement cette question de fiscalité pour arriver à améliorer notre économie. Le professeur a relevé d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Quel est votre point de vue par rapport à ça?
Merci. Hier, j'ai toujours dit que moi, je n'ai pas fait la littérature. C'est pas maître, c'est ingénieur Gaston.
C'est ingénieur Gaston, oui.
Oui, par rapport au discours du chef de l'État, il y a un seul point qui m'a beaucoup intéressé. Quand il a parlé de la fraude douanière, et il n'y a pas 2-3 mois, j'étais vers le Katanga, jusqu'en Zambie. J'ai fait pratiquement le même constat que le chef de l'État lorsqu'il était là-bas. Mais c'est hier. Vous voyez la route, Lubumbashi-Kasumbalesa, j'ai croisé plus de 600 véhicules, je dis bien plus de 600 véhicules, avec les cuivres. Et si le véhicule, c'est bien écrit, devant on écrit Hakuna Matata. L'aile gauche, on écrit Abarikani, et derrière on écrit Mouloussama. Et une fois à Kasumbalesa, je pose la question, j'ai fait un constat. Au niveau de la douane, au niveau de la frontière, tous ces véhicules ne s'arrêtaient pas. Mais d'autres véhicules s'arrêtaient et je constate qu'on comptait qu'on payait. J'ai appelé une autorité de Lubumbashi qui me dirait ceci. Il me dit, non, monsieur Gaston, tous ces véhicules payent leur douane déjà à partir de Lubumbashi. C'est pourquoi ils ne s'arrêtent pas, tu vois, ça entre. Monsieur JR, je l'ai dit tout haut à vos antennes. Plus de 600 véhicules avec des cuivres. Alors, tous ces cuivres vont où? Quand le cours de nos matières premières baisse, on nous informe. Mais quand ça augmente, nous ne sentons pas ça. Le plan du prix et des activités de notre économie. Ça, c'est un. Le chef d'État a fait le même constat qu'il était au marché. Il a appelé ça un contraste. Il avait organisé une conférence en soi. Il a contraste. La pauvreté que les gens vivent et tous ces véhicules qui s'acheminent vers la Zambie, ça va où? Ça, c'est le premier constat. L'unique nomination qui m'a rendu heureux dans ce pays, c'est quand j'ai appris que le chef de l'État avait nommé M. Luzolo Bandi, conseiller. Je ne sais pas si jusque-là, il n'a traqué personne, ça nous dépasse. Quand le chef voulait parler de la fraude fiscale, je crois que le chef de l'État a évité les mots corruption pour ne pas mettre son conseiller mal à l'aise. Il devait parler de la corruption. Mais M. Luzolo, qu'est-ce qu'il fait? Au-delà du fait que nous ne produisons pas assez, mais le pays que nous produisons, M. JR, si c'est canalisé, ça peut remonter notre économie.
Merci beaucoup, ingénieur Gaston, c'est Monsieur Pierrot. Mais rappelons quand même que le rôle du conseiller, parce que vous l'avez appelé, nous avons eu plusieurs débats autour de l'impact de cette nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux. Mais rappelons quand même que les conseillers ne poursuit pas. Le conseiller n'arrête pas, il ne poursuit pas. Il peut faire son travail, comme il l'a dit la fois passée, transmettre les dossiers au cours des tribunaux, c'est à eux de pouvoir se saisir de ces dossiers, de poursuivre. Tout ce que lui peut faire, c'est, comme on l'a dit la fois passée, selon son mandat. Merci beaucoup, mais vous estimez que c'est une question de la fraude. Alors, comment, d'une manière efficace, on peut arriver à lutter contre cette fraude? Toutes les questions vont être ramassées tout à l'heure par notre invité. Je rappelle, le contact pour intervenir en direct, 081-890-4969, 081-890-6380. Blaise, vous êtes à Kindu, Arsène en Tanzanie, vous gardez la ligne, nous allons vous accorder la parole juste après.
Congolaises, Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Comment s'enrôler ?
C'est facile, il suffit de vous rendre au centre d'inscription le plus proche, muni de votre pièce d'identité ou tout autre document officiel autorisé.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi ?
Parole aux auditeurs.
Professeur, on a écouté les auditeurs. On peut dire que toutes ces questions, la question des cadres macroéconomiques, on sait cette question est revenue plusieurs fois dans les débats. Les auditeurs sont revenus sur l'aspect sécuritaire, l'instabilité politique avec les changements de gouvernement, la production, la fraude douanière. Ça dit que ça peut donner l'intention d'être déjà entendu, parce qu'on est revenu plusieurs fois sur ça. Mais qu'est-ce qui peut faire la particularité d'analyse de tous ces, dans l'analyse de tous ces éléments relevés par les auditeurs?
Bon, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de particulier. C'est du déjà entendu, comme vous le dites. Mais on pourra peut-être suivre un à un ces intervenants pour peut-être relever ce qui peut interpeller les uns et les autres. Par exemple, il y a Timothée qui parle de
le gouvernement qui a privilégié les cadres macroéconomiques à la microéconomie, oui.
Les gros projets, le discours sur le cadre macroéconomique, sur le PIB, sur le taux de croissance et des choses comme ça, par rapport en fait au traitement à donner aux entreprises, aux grandes entreprises, aux petites entreprises locales. Par exemple, il y a quelque chose à faire. Il y aurait eu quelque chose à faire par rapport aux gens, au regard de qui le gouvernement a une dette, donc la dette intérieure. Donc la dette intérieure a été bloquée pendant longtemps par rapport aux entreprises congolaises. Pendant longtemps, elle a été bloquée et je pense que la situation reste telle qu'elle jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut encourager les micro-entreprises. Et puis, les toutes petites entreprises congolaises, il y avait moyen, il y a toujours moyen de pouvoir... Il y a des pays comme la Malaisie qui donnent de l'argent frais à des entreprises. Qui donne de l'argent, qui ne prête pas. Donc, on sort l'argent du trésor public, on le donne aux petites entreprises pour leur permettre de prospérer. Donc, je crois que les gens payent les impôts, c'est vrai, mais il faut aussi qu'il y ait un retour de la manivelle. Il faut qu'il y ait un retour de telle sorte que les gens puissent y croire. Donc, il y a toute une stratégie à mettre en place par le gouvernement pour pouvoir accompagner des petites entreprises, parce que ce sont toutes ces petites entreprises et les grandes entreprises, bien entendu, congolaises, et qui permettront d'avoir un discours cohérent, un discours macroéconomique cohérent par rapport aux productions qu'ils vont réaliser. Il y a Michel qui a parlé de...
Les aspects sécuritaires.
Les aspects sécuritaires, ouais. Ça je l'ai déjà dit, j'ai dit que là où il y a insécurité, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait investissement ou bien qu'il y ait production, sauf une certaine production. Si vous voyez un investisseur, on a même parlé de certains investisseurs chinois qui se sont installés dans l'Est là-bas, hein, dans une région en guerre. Si vous voyez un investisseur aller s'installer dans une région en guerre comme ça, c'est que quelque part, il est en train de faire de la fraude. Donc, si on a besoin des investisseurs, des vrais investisseurs, il faut aménager le cadre politique pour qu'il soit propice à pouvoir les recevoir. Les tracasseries, oui, on le dit toujours, mais je pense que ce sont ces questions de tracasserie qui doivent interpeller le gouvernement. Ce qu'il y a de nouveau que nous pouvons dire, c'est que le gouvernement, tant central que provincial, doivent être interpellés par ces questions. Parce qu'on en parle comme ça, on en parle. Vous allez à Kasumbalesa, notre ami qui est passé par Kasumbalesa, vous trouvez qu'il y a plusieurs services de l'État qui sont installés là-bas. Du côté congolais, moi j'étais passé par là. Du côté zambien, il y a un ou deux services, c'est tout. Les choses vont très vite. Vous venez du côté congolais, il y a 15 services, chacun tournant autour de marchandises. Et on le dit comme ça, mais il n'y a personne qui prend la situation en main pour l'améliorer. Je crois que ces questions de tracasserie, comme le chef de l'État y est revenu lui-même, c'est des questions qui doivent interpeller le gouvernement central et les gouvernements provinciaux pour qu'ils puissent trouver des solutions à ces questions-là.
Mais parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'appui aux micro-industries, rappelons quand même qu'on a eu des problèmes sérieux avec le fonctionnement du fonds de promotion de l'industrie. Nous avons eu beaucoup de débats, des capitaux qui sont sortis, qui ont été octroyés des fois aux personnes, mais qui en réalité n'ont pas pu investir ces capitaux. On n'a pas vu leurs activités, on a parlé des interférences des politiques qui ont perçu des sommes colossales auprès de FPI. On a évoqué là-dessus. Si notre ami revient sur le rôle du conseil spécial du chef de l'État en termes de lutte contre la fraude, c'est parce qu'on se rend compte que dans tous les débats, dans toutes ces plaintes, mais il n'y a pas des actions concrètes qui suivent, par exemple en termes de justice, en termes de poursuites. Quand bien même le Parlement a eu un grand débat autour de ceux qui ont pris l'argent, nous on a eu aussi la parole des gens qui ont appelé pour dire « Oui, mais on m'avait donné l'argent, mais je n'ai pas pu faire parce qu'il y a tout ça. » Mais à la fin, on s'est dit, est-ce que dans ces conditions, on peut nous faire confiance pour qu'enfin, qu'on ait des investisseurs et qu'on se relève soi-même?
Oui, bon, on a parlé des FPI, mais il y a des amis qui ont visité un organisme comme FPI au Maroc. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Ils octroient des crédits qui sont remboursés, etc. Le système fonctionne très bien. Alors pourquoi il ne fonctionne pas chez nous? Parce que au Maroc, on ne donne pas un crédit à un politicien. On donne le crédit à des entreprises viables dont on s'est assuré qu'ils ont une comptabilité qui permet leur viabilité. Mais ici, je pense que le gros du crédit est donné à des politiciens. Quand c'est donné à des policiers, c'est parti, hein, ça ne reviendra pas. Donc je crois que toutes les structures ont été mises en place dans notre pays, toutes les structures, évidemment, il y en a qui sont tombées en faillite, comme le fonds de promotion du crédit immobilier qui existait dans le temps, mais ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal parce qu'il y a beaucoup d'interférences politiques. Je crois que c'est la grande question pour que ces structures puissent marcher.
Voilà, on va écouter Blaise Kietakindou. Blaise, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Blaise.
Oui Pierrot, en suivant vraiment les discours du président, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que les problèmes fiscaux n'est pas ce que nous sommes en train de dire ici chez nous, à Kindou, par exemple, un adage sur elle qui dit que Mouto la thème à Mate Dio, il n'a manguki à combat. C'est comme si les gouvernements, les présidents.
Et Blaise, et en français, ça veut dire quoi, ce proverbe, Blaise?
Oui, ce proverbe veut dire qu'il y a tant de chefs de salut en haut, et c'est là où il tombe sur la tête, ou bien sur sa poitrine.
On a des petits soucis vraiment avec votre ligne, Blaise. En attendant que vous puissiez vous déplacer, nous allons écouter Arsène qui nous appelle de la Tanzanie. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour. Je suis encore très heureux de m'associer dans notre débat. Je suis en train de sentir l'intervention de notre invité. Nous sommes très heureux de sa façon dont il est mené et nous sommes très contents. Mais ce que nous déplorons, c'est la politique qui ne permet pas les petites et moyennes entreprises d'évoluer comme il faudrait. Nous sentons que ça pouvait justement être la faute de notre gouvernement. À titre d'exemple, aujourd'hui nous avons presque des banques qui sont presque en faillite. Il y a des petits commerçants et des gens qui sont en train de tenter d'évoluer. Lorsqu'ils dépassent, aujourd'hui ils n'ont pas l'accès à leur somme d'argent, c'est une difficulté. Il y a un autre problème que nous sentons aujourd'hui. Bon, presque les services de commerce est investi aujourd'hui par nos politiciens. Vous-même, vous êtes témoin, nos gouverneurs aujourd'hui sont en train de vendre les dollars et la monnaie congolaise. À titre d'exemple, il y a parmi les deux gouverneurs, entre un gouverneur, qui vous est du nord, qui vous allez choisir, vous, il y a un gouverneur qu'on a cité, il est en train de permettre aux Chinois de fabriquer les monnaies congolaises à l'échange des dollars. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, les problèmes de l'échange.
Et cette accusation, Arsène, faudrait-il. Oui, par rapport à cette accusation, Arsène, oui.
Lorsque nous voyons les fonds de promotion culturelle, alors, vous pouvez supposer, ça pourrait seulement aider les petites entreprises, soit il y a des menuisiers. Il y a aussi
Et là, Arsène, vous voudriez parler de fonds de promotion de l'industrie, je crois, au lieu des fonds de promotion culturelle. Mais vous avez tout à l'heure porté une accusation, honnêtement, que vous avez appris qu'il y aurait eu de gouverneurs accusés d'avoir facilité aux Chinois quelque chose qui est lié à la monnaie. Je crois qu'on n'est pas à mesure vraiment de pouvoir étayer une telle accusation ni pouvoir la justifier. Mais si je reviens à l'importance, à votre argumentaire, vous avez évoqué les difficultés aujourd'hui, hein, que ce soit dans le secteur bancaire, que ce soit les secteurs de la microfinance, les petits épargnants qui ne sont plus en mesure de récupérer ou d'entrer en possession de leurs épargnes. C'est là, on a vu, hein, avec les différentes sociétés de microfinance qui sont tombées en faillite. Mais je crois et vous estimez que cela ne peut pas permettre aujourd'hui, hein, aux petites et moyennes entreprises de pouvoir évoluer. Merci beaucoup, Arsène. On revient à Kindou, Blaise. On pense que la ligne s'est améliorée entre Kinshasa et Kindou. Blaise, c'est bon, on vous écoute.
Oui.
Blaise, pourriez-vous dire, et arrêter aussi, oui. Et arrêter aussi votre poste de récepteur, s'il vous plaît, oui.
Est-ce que vous me suivez?
Oui, arrêtez votre poste récepteur, s'il vous plaît. On peut gagner le temps pour communiquer, oui.
Oui, je l'ai arrêté d'ailleurs. Là, vous me suivez, je pense.
Allez-y, continuez.
Oui, je disais que quand les chefs avaient prononcé ce discours, et surtout sur le plan fiscal, je disais que c'est comme si quelqu'un qui jetait la salive, au lieu de la jeter en bas, il l'a jetée en haut, et cela est retombé sur sa tête, parce que nous ne pouvons pas parler de tout ce que nous sommes en train de parler si on ne voit pas la politique du gouvernement. Il n'y a que le gouvernement qui est auteur de tout ce que nous sommes en train de voir. Quand il y a la pauvreté, comment est-ce qu'on va vraiment chercher à avoir une bonne fiscalité au niveau du pays ou bien une bonne économie au niveau du pays? Vous regardez aujourd'hui, il a souligné les problèmes de fraude fiscale. Cette fraude-là, cette hémorragie.
On a perdu Blaise. On revient à vous, professeur, directement, parce que nous avons quand même centré ces débats autour de ce souci du chef de l'État de pouvoir améliorer la fiscalité. Alors, quelles sont les grandes lignes aujourd'hui? Peut-être vous pourriez placer un mot sur ce que les auditeurs disaient tout à l'heure. Mais quelles doivent être les grandes lignes à considérer quand il faudrait passer à cette réforme fiscale? Parce qu'il faut quand même qu'on revienne à cette question principale. On a accusé la fiscalité. Et quels sont les éléments aujourd'hui qu'on doit prendre en compte dans cette réforme?
Dans cette réforme, je pense qu'il faut harmoniser le système fiscal congolais, donc harmoniser les impôts perçus par le pouvoir central avec ceux perçus par les entités territoriales décentralisées, et harmoniser également les taxes perçues à ces deux niveaux. Et harmoniser également d'autres taxes qui sont, ce qu'on appelle parafiscalité, qui sont perçues par d'autres. Parce que quand vous venez à la douane, vous payez aussi FPI, vous payez quarantaine, vous payez tel, vous payez OGFREM, vous payez tel. Tout cela, tout cela à tout prendre, ça fait quand même une charge fiscale importante. Donc il y a un problème d'harmonisation de toutes ces perceptions qui sont faites pour nous centrer sur ce qui est essentiel. Si vous prenez certains pays, dans la plupart des pays, les entités territoriales décentralisées vivent essentiellement avec les impôts réels, qu'on appelle impôts réels, c'est-à-dire impôts fonciers, impôts sur véhicules, etc. Donc, ils restent dans ce cadre-là et ils ne vont pas ailleurs. Donc, j'ai parlé d'harmonisation et je parle également de la restructuration de notre système fiscal. Parce que dans d'autres pays, prenez le pays de l'Est, Ouganda, Zambie, et tout, il y a eu un seul organisme qui perçoit les impôts et les taxes. Mm-hmm. Donc, service de revenus, ce qu'on appelle service de revenus. Ce n'est pas plusieurs services qui perçoivent les recettes, c'est un seul service qui perçoit les recettes. Comme ça, on peut y voir un peu clair. On peut voir clair par rapport à des gens qui importent, par rapport à ceux qui sont installés, etc. Si c'est un seul organisme qui le fait, ça pourrait bien aller. Et puis, on peut également voir s'il est possible de pouvoir réduire la charge de certains impôts. Regardez, j'étais avec des collègues nigérians, quelque part dans une réunion à l'étranger. Lui, il a dit, voilà, venez chez moi, la TVA chez moi est de 5%. Mm-hmm. Chez moi, la TVA, c'est 5%. Nous, on a mis déjà la TVA maximale de 16%. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas 12%, 13%? On peut réfléchir sur les taux d'impôt. Regardez, en ce qui concerne l'impôt sur bénéfices, les entreprises minières payent un taux de 30%. Mm-hmm. Les entreprises qui ne sont pas minières payent un taux de 35%. Pourquoi ne pas mettre un même taux d'imposition? Donc, on peut également, réfléchir par rapport au taux d'imposition qui sont. Parce que trop d'impôts tue l'impôt. C'est pas parce que vous mettez des taux très élevés que vous aurez un rendement très élevé. Vous mettez un taux très élevé, ça va pousser les gens à la fraude. Donc, il y a une réflexion à faire. Mm-hmm. Et ce serait bien que cette réflexion soit faite par les Congolais, plutôt qu'on aille chercher encore des gens quelque part à Washington pour venir le faire, alors que nous avons toutes les connaissances, nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Et je crois que c'est une réflexion qu'il faut faire.
Mm-hmm. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, merci d'être avec nous, bonjour.
Pierrot, bonjour au professeur. Mm-hmm. Merci. J'ai reçu les 5 points du discours du chef de l'État, tels que vous les avez précisés. Pression fiscale, appui au PME, investissement dans l'agro-industrie, fraude douanière et fiscale, et puis nouvelle loi partenariat public-privé. Premier constat. J'aurais bien voulu, si nous étions dans une entreprise, avant de donner le constat, si on était dans une entreprise, j'appellerais les décisions du chef de l'État comme les décisions d'impulsion. Mais pour arriver à réaliser une décision d'impulsion, il nous faut d'autres décisions intermédiaires, c'est-à-dire la décision d'aménagement. Je prends un exemple dans une entreprise. Le comité de gestion décide, nous allons construire un nouvel immeuble. Ça, c'est une décision d'impulsion. Maintenant, les services attitrés à ces travaux vont voir de quelle manière on peut faire et tout ça. Et en fin de compte, on donne aux exécutants, nous avons maintenant la décision d'exécution en troisième phase. Mm-hmm. Mais quand je me réalise que les objectifs assignés au gouvernement Bruno Tshibala sont, par exemple, les élections, le social, je me dis, il y a une rupture entre les décisions du chef de l'État et le programme du gouvernement. Par conséquent, si j'étais dans la sphère de ceux qui avaient rédigé le discours pour le chef de l'État, j'aurais demandé que le chef de l'État crée une commission spéciale pour matérialiser ces éléments, afin de voir de quelle manière on peut les réaliser. Maintenant, s'agissant de ces éléments, je commence par la fraude douanière.
Allez-y rapidement, ingénieur, parce que là, je vois plusieurs personnes qui sont au niveau de notre standard. Si vous pouvez synthétiser rapidement,
j'accélère maintenant. Quelles sont les causes de la fraude douanière? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, les politiques eux-mêmes, ils ne payent pas convenablement. Ils amènent des trafics d'influence. Je crois que le chef de l'État peut aussi quand même peser sur son entourage afin qu'il puisse prêcher l'exemple. Il y a aussi la pression exagéré. Les amitiés entre les services de attitrés et les commerçants, tout cela ça joue. Maintenant, concernant la pression fiscale, vous savez, Pierrot, il existe en économie une courbe que les profs vont connaître mieux que moi, la courbe de Laffer. Cet homme a démontré que plus on agit sur la pression fiscale, évidemment, au début les recettes montent. Mais il existe un point d'inflexion à partir duquel la courbe change de concavité. Donc si on dépasse ce seuil-là, automatiquement on descend vers le bas. Et là aussi c'est intéressant, on doit y arriver. Mais pour appuyer maintenant, j'attaque les problèmes des agro-industries. Au niveau des agro-industries, il y a Bukangalozo. On a commencé par l'industrie, mais on n'a pas encore beaucoup planté. Mais ce sont les produits de la récolte qu'on viendra transformer. On a parlé d'un autre parc agro-industriel ici au Maniema de Kipaka.
c'est depuis qu'on en a parlé, je ne vois même pas l'évolution. Alors, s'agissant des PMP, les PMP, quand on les appuie, ici c'est encore une faiblesse, c'est comme les problèmes de la fraude douanière aussi. Ce sont toujours les politiques qui viennent chercher les crédits et pour ne pas...
Alors, ingénieur Valérie, parce qu'il, pour permettre à beaucoup d'autres intervenants, parce qu'il y a là, ils sont très, très nombreux, je voudrais retenir dans ce que vous avez dit tout à l'heure, le programme du gouvernement. Rappelons quand même qu'il y a des missions qui ont été assignées au gouvernement Tshibala qu'on n'a pas encore, il faudrait qu'il les forme, qu'on entende son discours lors de l'investiture pour savoir quels sont les éléments clés qu'il pourra relever. Mais vous estimez qu'il faudrait qu'il faille avoir une commission spéciale pour s'occuper de ces questions relevées par le chef de l'État. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur notre standard. Nous allons écouter Dongo qui nous appelle d'Ekbadolité. Bonjour Dongo.
Bonjour monsieur. Oui, je suis monsieur Dongo. Je vous appelle depuis Badolité. Donc, j'ai suivi avec une attention soutenue le discours du président de la République devant le congrès de notre, de notre pays. Donc, j'ai failli tomber de nu quand j'entends le président de la République soulever ses points concernant tout ce qui est le cadre, tout ce qui relève du cadre macroéconomique. Je suis vraiment honoré aujourd'hui de prendre la parole parce que professeur Boba qui est là est un professeur qui a enseigné. J'étais étudiant aussi à l'UPC. Donc, je conviendrai avec tous ceux qui sont passés avant moi que le seul problème qui gangrène notre pays et le cadre macroéconomique relève d'abord de l'interférence et du clientélisme politique, qu'on se le dise sincèrement. Donc voilà, si nous revenions par exemple, je m'appesantis seulement sur le petit cas de monsieur Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga. On le sait bien que ce monsieur a fait fuir beaucoup de capitaux avec ses sociétés, MCK avec ses sociétés Hakuna Matata. Et aujourd'hui, on a des problèmes parce que le monsieur ne roule plus pour le pouvoir en place et voilà, on fait ressortir tout ça. Si je reviens
mais alors, oui, si nous entrons, oui,
ma province d'origine,
Dongo,
nous avons...
Donc oui. Si nous entrons à juger, vous savez que le Congo a beaucoup de dossiers. Si nous mettons Moïse Katumbi sur la table, l'autre personne va aussi mettre tel sur la table. Et puis on va se retrouver dans une confusion.
Exemple. Quand on parle par exemple de l'économie, je prends par exemple la province du Nord-Bangui qui est en ce moment désenclavée. Mm-hmm. Mais au moment où il y a des récoltes qui sont là, il y a la production.
Alors,
c'est-à-dire
que vous voulez parler de l'enclavement. Oui, Dongo, vous voulez dire que la province de Nourbangui est enclavée, il y a des productions. Notre ami Michel l'évoquait tout à l'heure pour le Sud Kivu, mais si on doit entrer dans les débats des individus qui a fait quoi dans ces pays, je crois on va prendre des heures et des heures pour citer le nom des gens. Mais vous estimez, vous, que le problème se trouve au niveau des interférences et clientélisme politique, c'est ce qui mine notre économie pour revenir à notre débat. On va écouter Maître Sonville qui est à Lubumbashi. Maître, merci d'être avec nous. Alors, comment on peut arriver à améliorer tous ces indicateurs pour qu'enfin permettre à la RDC de pouvoir se relever sur le plan économique selon les éléments clés que nous avons soulevés dans cette émission, Maître?
Monsieur Pierrot, et bon retour au micro.
Merci.
Par rapport à tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs, moi je dirais que le plus grand problème, ce n'est pas la restructuration fiscale, le plus grand problème, c'est la bonne gouvernance. Lorsque les investisseurs n'ont plus confiance au gouvernement, estime que même la fiscalité ne doit pas exister. Qui va payer cette fiscalité? Et puis, c'est par rapport même à l'économie congolaise. J'estime que depuis Moïse Katumbi, l'économie était florissante au Katanga. Il y avait beaucoup de sociétés. Juste après son départ, il n'y a plus d'entreprises. Il y a beaucoup de leurs portes. Moi, j'estime que le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est la bonne gouvernance. Et au-delà de ça, par rapport au financement des petites et moyennes entreprises, nous avons, il y a quelqu'un qui a étayé le problème de SPI. Le FPI a donné l'argent à qui nous connaissons la liste. Ce ne sont même pas des petits témoins de l'entreprise. Ce ne sont pas des commerçants. Le FPI a donné à des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans les institutions et qui ne savent pas remettre cet argent pour que le FPI puisse le disposer à d'autres partenaires. Vous comprenez un peu. Par rapport maintenant toujours à la fiscalité, moi je estime que si aussi longtemps que les fonctionnaires ne sont pas bien payés, les fonctionnaires vont se donner à la corruption, au clientélisme, quoi que ce soit, et pour qu'ils se retrouvent, et pour qu'ils puissent avoir noué les deux bouts du mois. Et par rapport même à la tracasserie au niveau de la frontière, mais le chef de l'État connaît ceux-là qui sont à la base de cette tracasserie. Ce ne sont même pas les régies financières. Parce qu'aujourd'hui, il existe un guichet unique, et c'est dans ce guichet unique que les entreprises versent leurs impôts.
Maître Sauville, parce qu'il y a aussi Justin qui est à Funguru, mais avec nous, on va peut-être chuter par là. Vous estimez que la question se résume tout simplement dans la bonne gouvernance. C'est elle qui doit instaurer la confiance entre les investisseurs et puis ainsi que le pouvoir public. Justin, vous êtes à Funguru, mais merci d'être avec nous, Justin. Bonjour.
Bonjour, monsieur Joueur. Je suis très heureux de me passer encore la parole. En tout cas, la fiscalité, c'est le bout sans bourbe de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Puisque l'argent donné pour la fiscalité n'arrive pas à la destination pour nous annoncer les montants qui se trouvent dans la banque de la République démocratique du Congo. Donc, là où vous parlez, c'est très fort puisque vous êtes très loin. Nous sommes ici à Funguru, mais nous voyons des bévues qui se passent sur le paiement de taxes, sur quoi que ce soit. On donne l'argent. Prenons l'exemple peut-être de la police. Il doit payer l'amende transactionnelle, mais l'argent qui passe directement dans les poches à celui qui va donner ça. Est-ce que cet argent va arriver à la destination pour que la République démocratique du Congo supporte la population? Donc, point d'interrogation. Je ne sais pas où cet argent va, cet argent. Là où on doit travailler. Le président de la République a une bonne foi de gérer ses paysans, a une bonne foi de gérer la République démocratique du Congo. Mais les fessibalternes, les agents là de
on peut de parler en termes des collaborateurs.
Bonne
voilà.
Foi d'aller déposer l'argent.
Voilà. C'est-à-dire que vous êtes revenu à ce que les autres ont parlé, les détournements de fonds, la transparence, ce sont des questions de fonds qui doivent être analysées d'une manière, bien sûr, froide pour qu'on trouve des solutions. On revient à vous, professeur Mathias Boabois-Kayembe. On a suivi les uns et les autres. Maître Sonville dit, toutes ces questions, fiscalité, corruption, tracasserie, lui, il résume ça en termes bonne gouvernance. Il estime que si il y a cette bonne gouvernance qui est instaurée, l'ensemble de tous ces éléments, tout cela peut être réglé.
Oui, effectivement, je crois qu'il a raison. Mais je voudrais parler tout d'abord de, parce qu'il y en a qui ont beaucoup insisté sur la politique, pour dire que, en fait, la politique n'est pas une mauvaise chose en soi. La politique, elle est là pour servir l'intérêt général de la population, pour servir l'intérêt du petit peuple. Donc normalement, les hommes politiques ne devraient pas être distraits, ils devraient aller vers la bonne gouvernance, c'est-à-dire être attentif à tous les détails, à tous les détails. Quand on est ministre, on doit être attentif à tous les détails de son ministère pour régler les problèmes qui se posent. Mm-hmm. Et je crois que c'est, à mon avis, c'est ça la gouvernance. Ou bien on est gouverneur de province, on doit être attentif à tout ce qui se passe, qui est mauvais, pour régler ça. Donc c'est ça. Donc si l'homme politique travaille dans cette vision-là, c'est très bien. Et même si on a un budget qui n'est pas très important, mais on peut gérer cela dans le sens d'instaurer la solidarité nationale pour que tout le monde se retrouve dans ce budget-là. Donc la bonne gouvernance, elle est essentielle. Et si tout le monde faisait la bonne gouvernance, effectivement, comme le dit Justin, l'argent ira à destination et on aurait beaucoup d'argent. Parce que quand on voit sur la route les policiers de roulage en train de demander de l'argent, tout ça, s'il y avait bonne gouvernance, cet argent irait au compte de l'État et on aurait beaucoup d'argent à répartir entre...
Mais parce que là, il nous reste que 30 secondes. Quels sont les éléments clés peut-être dans ces 30 secondes qui peuvent être retrouvés dans votre livre, qui peuvent aider les uns et les autres dans cette réflexion autour de la fiscalité?
Oh, c'est une réflexion de 400 pages. Hein? J'aimerais bien qu'on puisse avoir le temps d'en parler.
Ouais.
J'aimerais bien que le livre sorte. Il sort la semaine prochaine. On pourra l'avoir et puis on pourra peut-être faire une émission là-dessus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mathias Bobo-Kaimbe. Vous êtes professeur d'université et ancien directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Merci de nous avoir accordé de votre temps partager ces sujets avec les auditeurs des Radio Capi.
Merci.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Dieudonné Nyangassa qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Pierrot et la Meiji vous l'a présenté sous la supervision de Julien Niamouini. Vous retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. On se retrouve le lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end, une bonne fête de Pâques. Merci, au revoir.